Brume 90.7 en direct sur les ondes, il est 18h30 et c'est l'heure pour nous, comme chaque mercredi, de retrouver Raphaël Lorenzo et Hakim Fdaouche pour le Confluence Cinéma. Bonsoir à vous messieurs.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
Alors c'est la dernière émission en direct de cette année 2014. Par contre, chers auditeurs de Brume, dans les jours à venir, vous pourrez entendre notre émission Top Flop de l'année 2014 avec les films que nos chroniqueurs ont adorés ou détestés. Et également une émission spéciale série qu'on a concoctée avec Raphaël où on reviendra sur les grandes séries de 2014. Mais là, aujourd'hui, en direct sur Brume, on va parler d'un grand film de la semaine, c'est Dumb and Dumber, notamment en première
Dumb
partie.
Dumb and Dumber 2 et qui s'écrit D-E avec une faute d'orthographe.
Donc volontaire nouveau...
Oui, c'est volontaire. En anglais, c'est Dumb and Dumber 2. Donc sans le W en fait du tout quoi. Et donc le retour des frères Farrelly au cinéma après pas mal d'absence sur les écrans français. Tous leurs films étaient sortis directement en DVD.
Alors Hakim, toi tu nous parleras d'un coffret DVD.
Oui, qui est un peu en lien avec Dumb and Dumber parce que c'est un coffret qui réunit une bonne partie de l'œuvre d'Harold Lloyd qui est un des troisièmes rois de la comédie burlesque du début du XXe siècle. Un gros coffret qui sort chez Carlotta avec 16 films moyens, moyens-métrages, documentaires, des courts-métrages. Et c'est un comique que j'ai découvert et Raphaël me disait juste avant l'émission qu'en fait il y avait un parallèle entre Harold Lloyd et Dumb and Dumber. Donc le hasard fait bien
disons
les choses.
Disons que les héros de Dumb and Dumber s'appellent Harry et Lloyd. Ouais. Donc Harold Lloyd.
Alors dans la deuxième partie de cette émission, on ira faire un tour futuriste sur les grandes attentes, les grands films qui vont arriver sur 2015. Vous nous parlerez un petit peu de tout ça, messieurs. Et on commence par Raphaël qui va nous chroniquer Dumb and Dumber 2.
Et oui, qui représente quelque part pour nous, jeunes cinéphiles, dans l'imaginaire un peu collectif, une sorte de Madeleine de Proust, enfin du moins pour moi. C'est un film que j'avais vu le premier, sorti en 94, donc il y a 20 ans pile, qui marquait les débuts de Jim Carrey. Il avait fait la même année Ace Ventura, donc deux gros succès.
Juste avant, il avait fait The Mask.
Non, c'est juste un peu après. Enfin, c'est à peu près bien la sûr. Même période, si tu veux. Parce qu'en 2000, mais Dumb and Dumber, c'est vraiment le film qui l'a fait exploser aux États-Unis. Quoi.
Et mais je crois qu'il avait joué dans un... Il faisait une courte apparition dans un autre film d'un grand metteur en scène, je ne m'en rappelle plus.
Il a fait le cinquième Dirty Harry, si je me souviens bien. Ouais, donc, il a commencé comme ça. Et après, effectivement, tu me mets le doute, là. Oui, je vais trouver ça.
Un gars qui joue dans une caravane, c'est pas dans Dirty Harry, là?
Non, il joue un inspecteur de police, enfin, tu sais, un adjoint... Sur une scène de crime, enfin, c'est pas grave. Mais en tout cas, 94, c'est effectivement l'année, avec The Mask aussi après, qui va le faire émerger. Il avait déjà fait le SNL avant, enfin, pas mal d'apparitions du stand-up.
Et Disjoncté, là... c'est après.
Ouais, Disjoncté, c'est un peu après. C'est le seul film à l'époque qui a fait un gros beat de sa carrière. C'est le film qui a failli ruiner sa carrière, entre guillemets. Et bref, Dumb and Dumber est un film que j'avais vu et archi-revu quand j'étais gosse, avec tous les Jim Carrey. C'est un monument de bêtises. Hein, un film qui, justement, comment dirais-je, réactualisait tout le burlesque, justement, de Harold Lloyd, Laurel et Hardy, à ce côté voilà, duo qui marche très bien, les trois Stooges que les frères Farrelly ont réactualisé avec les trois Stooges il y a 2 ans de ça.
Et que Tarantino a fait connaître au public lyonnais l'année dernière en programmant un film des Stooges.
Ça aurait été bien de mettre la sélection de Tarantino avec le film des Farrelly parce que c'est une très belle réactualisation avec la télé-réalité, enfin, ça marche très très bien. Et c'est un film malheureusement qui était sorti directement en DTV. Et les Farrelly, ça fait quand même 2-3 films qu'ils ont ce sort. Et heureusement que Jim Carrey est là quand même avec leur nouveau film pour le retour aux sources, hein, pour avoir une sortie quand même assez massive pour Dumb and Dumber 2. Le film retrace, donc cette fois-ci, le film démarre avec Jim Carrey, qui fait croire à son copain Harry qu'il est, comment on pourrait dire, catatonique pendant 20 ans. Voilà, donc c'est une blague, pendant 20 ans, et tout le début démarre, c'est vraiment un manifeste de l'humour, comment faire rire aujourd'hui, où t'as Jim Carrey qui te dit, mais ouais, j'ai fait semblant pendant 20 ans, il fait, mais pourquoi t'as pas attendu 10 ans? Il fait, parce que 20 ans, c'est le timing parfait pour faire rire les gens, quoi. Et donc, tu vois, c'est vraiment les Farrelly qui vous disent, on a attendu un temps vraiment précis pour emmener notre suite, quoi. Il y a une autre suite de Dumb and Dumber qui s'appelait Dumb and Dumberer, qui est un préquel, sans Jim Carrey, sans Jeff Daniels, et qui est vraiment affligeant, puisque l'idée de base... était de montrer les deux débiles, donc Harry et Lloyd, dans leur adolescence, qui n'a strictement aucun intérêt, puisque tous les ados en fait, sont un peu débiles. Quoi. L'intérêt, c'est de les montrer de plus en plus vieux, et justement de plus en plus bêtes, quoi, de créer ce décalage par rapport à leur âge. Et donc, Jim Carrey ressort de sa catatonie, il va voir donc son copain, il décide très très vite de retourner aux sources, et là, Harry découvre en fait, qu'il a une fille. Il a une fille d'environ 22 ans. Il décide très très vite de la rejoindre, d'autant plus qu'il a une maladie, on ne sait pas laquelle, une maladie très très rare. Il lui faut un rein, donc ça permet, tu vois, un peu de trouver une solution pour sa maladie, quoi. Donc s'il a une fille, il a peut-être une solution de dépannage, quoi. Et ils partent comme dans le premier en road movie avec des tueurs sur qui sont en leur trousse. Hein. Et non, ceci, il y a d'autres. Il y a des clins d'œil au premier, si tu veux. Il y a la camionnette chien qui réapparaît. Tu sais, le toutou en poil, enfin la camionnette en poil, elle réapparaît. Donc il y a des clins d'œil. Il y a aussi l'handicapé qui revient, tu sais, le petit handicapé aveugle, il leur vend la perruche morte. Il y a des clins d'œil comme ça qui reviennent. Mais je trouve qu'ils ont eu l'intelligence de ne pas tomber dans le fan service, tu vois, dans le côté on va refaire le
recycler les meilleurs moments qui faisaient l'original.
Exactement. Ils ont l'idée, par contre, d'avoir ce côté très burlesque, de conserver les mêmes habits. C'est les mecs qui sont habillés pareil qu'il y a 20 ans, ils ont la même coupe de cheveux, tout pareil. Enfin, c'est très, très drôle, un côté personnage, tu vois. Ancré comme l'aurait l'air d'où Chaplin, tu sais, avec le petit chapeau. Et du coup, ça fonctionne tout de suite. Les gars, ils sont hilarants. Enfin, moi, j'adore cet humour après, mais c'est tellement débile. Enfin, t'as des gags où t'as Jim Carrey en train de doigter quand même une grand-mère de 80 ans. Enfin, tu te dis, mais comment ils osent faire ça encore aujourd'hui, quoi. Et ça va toujours de plus en plus loin. Et il y a un côté par rapport au premier, freaky, quoi. C'est-à-dire que comme ils sont vieux, comme ils ont 50 balais, mais qu'ils ont un quotient intellectuel proche d'un gamin de 2 ans, ça crée une sorte de décalage, tu vois. Et ça fonctionne, mais parfaitement. Et j'espère qu'ils vont nous faire un 3. D'ailleurs,
dans 20 ans.
Dans 20 ans. Je peux pas dire le film, mais ils y pensent. Dans 20 ans. Et voilà, à 70 balais, ça sera encore plus drôle. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça a fonctionné un peu comme le Hobbit pour moi, dans la mesure où je me suis dit, le temps est passé quand même. Il est très nostalgique. Il est très marqué années 90, le film. On pourrait croire qu'il était tourné à cette époque-là. Et les Farrelly, on sent qu'ils sont ancrés dans cette époque. Ils ont conservé cet humour-là, pipi caca, tout en réactualisant un Rod Lloyd, voilà, tous les grands, comme je l'ai cité avant. Et en conservant cette... cette fraîcheur, mais en ayant maintenant quand même 20 ans après, c'était leur premier film à Dumb and Dumber, une plus belle assise dans la mise en scène.
Et est-ce que, alors je pose une question, parce que moi Dumb and Dumber c'est un film que j'avais vu sur Canal+, donc 1990, je me souviens de deux, que j'ai pas revu depuis, je me souviens de deux séquences, l'une où Jim Carrey lève son cul, met un briquet et pète un bon coup, donc t'as une grosse flamme qui sort, et l'autre séquence où après avoir fait je sais pas combien de kilomètres sur la route, les deux sur la mobilette s'arrêtent et sont complètement givrés, avec la morve qui coule du nez et qui a givré.
Mais c'est la même chose. C'est pareil. Donc t'as d'autres gags où t'as un chat qui pète des plumes, t'as Jim Carrey avec la grand-mère. T'as aussi les rêves. C'est dans le premier, il y avait des rêves où ils se croyaient avec des ninjas, machin. Là, ils se croient en Superman, en train de sauver une femme. Enfin, c'est génial. Enfin, et encore une fois, c'est tellement sincère, c'est tellement bête.
Ah, tu as sorti ton sincère.
C'est tellement. Non, mais ça me touche. Mais vraiment, c'est un film qui est très touchant. Je te jure, c'est très touchant. Tu sens que le temps est passé par là et ça fait. Je l'ai pas dit. Ça fait plaisir de voir Jim Carrey enfin dans un premier rôle. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas fait un vrai premier rôle. Il avait pas mal d'apparitions dans. Dernier premier rôle, c'est quand même Monsieur Popper, ça c'est pingouin quand même. Moi je l'ai vu à l'époque, c'était quand même assez affligeant. Après, il a fait Kick-Ass 2 second rôle et un film DTV qui était très sympa avec Steve Carell qui s'appelait The Incroyable Burt Winterstone, un duel de magiciens qui est génial. Et il faisait un second rôle aussi, donc ça fait du bien de revoir Jim Carrey.
Il était passé par la case, c'est vrai que c'est un comique à la base, mais il était passé par la case Michel Gondry. Où il avait un petit peu
ça,
revu son registre.
C'était encore avant, ça.
Oui, non, parce que tu parles qu'on ne le voit plus depuis 5 ans, mais c'est ça un peu, malheureusement, la trajectoire tragique des comics. C'est qu'au bout d'un moment, quand on sait plus se renouveler et qu'on vieillit...
Il en parle, Jim Carrey, en interview. D'ailleurs, il balance pas mal ces temps-ci. Déjà, tu sais, Kick-Ass, il n'avait pas défendu le film parce qu'il devient de plus en plus anti-arme à feu, donc il est un peu plus politisé. Il ne veut pas qu'on lui colle d'étiquette de plus en plus. Pour lui, c'est un acteur, ce n'est pas forcément un comique. Donc, c'est pour ça qu'il fait Man on the Moon, qu'il fait Eternal Sunshine.
Le film avec le nombre 23 de Joel Schumacher, où il joue le rôle d'un tueur.
Pas terrible, celui-là.
Oui, on est d'accord.
Et donc, Jim Carrey, on sent que maintenant, il dit voilà, j'ai 50 ans, j'ai plus rien à prouver. Maintenant, je vais boucler la boucle, je vais revenir aux sources. Idem pour Jeff Daniels. D'ailleurs, Jeff Daniels, qui est un acteur qui vient du drame à la base, qui s'est aventuré dans le comique avec les Farrelly. Et on sent tous qu'il s'éclate, qu'ils veulent retrouver la source. Et ce qu'il ne faut pas oublier, surtout, je ne l'ai pas mentionné, c'est que les Farrelly, ce sont les premiers à avoir, entre guillemets, modernisé l'humour américain dans les années 90. Bien avant Judah Pato, c'est les premiers à avoir créé l'humour trash qu'on connaît à l'heure actuelle. Avec Dumb and Dumber, ils ont créé... la marque, quoi. Ils ont créé ce style-là.
Ce label.
Voilà, et on semble qu'ils disent voilà, nous on est encore là, on a encore des choses à dire dans ce domaine, et force est de constater que c'est le cas, quoi. Et franchement, c'est une très très bonne surprise, et c'est pas du tout un fan service.
Alors, Hakim, de ton côté, tu vas nous parler d'un coffret DVD.
Oui. Alors, c'est Harold Lloyd. C'est un coffret DVD qui est déjà sorti il y a un mois chez Carlotta, un gros, gros DVD. 16 films, moyen-métrage, long-métrage, qui vont de 50 minutes à 76 minutes. Deux documentaires qui datent de 63 et environ 13 courts-métrages. Alors, Harold Lloyd, c'est vraiment... c'est le troisième comique burlesque du début du XXe siècle, du début de... du cinéma. Et c'est un comique que je ne connaissais pas du tout. Bien sûr, je connaissais cette image célèbre où Harold Lloyd est accroché à une pendule d'un gratte-ciel dans le vide. Mais voilà, je ne connaissais pas plus. Et donc, du coup, ça a été une grande découverte. Alors, pour faire un petit peu historique, Harold Lloyd a commencé bien après Charlie Chaplin. Hein. À la base, c'est une personne qui vient du Nebraska et qui, par un concours de circonstances, son père a été dédommagé de son travail. Ils avaient le choix entre soit partir à l'est, soit partir à l'ouest. Ils ont fait pile ou face, finalement, c'est tombé sur l'ouest. Il va en Californie. Il commence à San Diego à donner quelques cours de comédie et il va rentrer grâce à un petit tour de passe-passe et par deux trois rencontres il va commencer par être figurant sur des films d'une bobine, donc 10 minutes, et il va créer un premier personnage qui va s'appeler Lonesome Luke, donc un personnage assez cartoonesque, assez clownesque, qui s'inspire entre autres de beaucoup de Charlie Chaplin. Et un jour il va rentrer dans une salle de cinéma qui projetait un de ses films, et il va entendre un garçon qui va dire « Oh là là, mais c'est l'acteur qui joue, qui se prend comme Charlot, Charlie Chaplin. » Et là, il va y avoir un gros déclic, il va se dire « Il faut absolument que je fasse autre chose, hein, parce que ce n'est pas du tout moi. » Et il va revenir, il va créer le personnage typique d'Harold Lloyd, hein, qui est cette personne, on va dire, ce monsieur un peu tout le monde, la personne qui habite à côté de chez soi, qui est à l'opposé de ce que faisaient Charlie Chaplin et de Buster Keaton, hein, à savoir des personnes un peu marginaux, en dehors de la société, un peu les gens un peu délaissés. Et contrairement à Charlie Chaplin, qui lui avait un pantalon trop grand et une veste trop courte, lui a décidé de prendre un costume bien taillé et sous des petites lunettes rondes.
Le petit canotier aussi.
Voilà, qui va faire sa marque de fabrique, ses petites lunettes rondes à écailles qu'il va trouver pour $75 dans un magasin à Los Angeles.
C'est devenu un cliché, ça, d'ailleurs. Mmh.
Et très rapidement, ces films vont avoir un grand succès. Et ses premiers grands succès, ça va être des films qu'il va faire avec la société Pathé. Il va commencer avec Edison et ensuite il va s'orienter vers Pathé qui vont lui proposer des films de deux bobines, donc deux fois 10 minutes, 20 minutes. Et son premier grand succès, ça va être, enfin, il y a plusieurs courts-métrages, enfin, longs-métrages vers les années 17, 18 qui vont vraiment le propulser au rang des plus grandes stars du burlesque hollywoodien. Mais son premier grand succès, c'est 1923, c'est Monte là-dessus. Donc voilà.
L'image la plus connue.
Alors c'est quand même aussi un moment où le cinéma est un art qui devient vraiment très très populaire et très diffusé, quoi. Oui, c'est un moment où le cinéma a un sens totalement différent aussi sur l'ensemble de la population.
Oui, et c'est à l'époque où le cinéma hollywoodien prend le dessus sur le cinéma mondial, l'époque où le cinéma hollywoodien commence à investir beaucoup d'argent dans les films à grand spectacle. Bon, on est bien sûr après Griffith, c'est 14, Intolérance, Naissance d'une Nation.
Puis c'est le moment où les salles commencent à émerger aussi. Hein.
Comment les salles commencent à émerger et où le système hollywoodien commence à émerger. Au début de l'histoire du cinéma américain, là, tout se passe sur la côte est, à New York. Là, ça fait presque une dizaine d'années que les grands studios, la Universal, la MGM, la Columbia ont émergé. Et voilà, c'est vraiment l'âge d'or. Et alors, il faut faire un parallèle un petit peu avec Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, lui, va créer son personnage de Charlot en 1914, va rencontrer un grand succès. Mais Harold Lloyd, lui... Bon, il va faire des grandes cascades comme le fera Charlie Chaplin, comme le fera Buster Keaton. Il va d'ailleurs mettre... Il y a une particularité, c'est qu'au tout début de sa carrière, quand il va signer son contrat avec Pathé, Pathé lui demande de faire des séances de photos et il va poser avec une bombe dans la main. Sauf que le problème, c'est que la bombe qu'il avait était vraiment armée. Donc du coup, suite à ça, la bombe va exploser, il va perdre 3 doigts. Et par la suite, il va toujours jouer avec un gant, avec 3 doigts. Et très rapidement, il va se perfectionner, bien sûr, dans la mise en scène. Bien qu'il n'aime pas la mise en scène, il préfère jouer et il engageait des gagman. J'ai appris ça en lisant
un c'est comme de Funès au fond, quoi.
Voilà. Il n'écrivait pas lui-même ses gags et il travaillait toujours avec un metteur en scène parce qu'il n'aimait pas être des deux côtés. Et l'anecdote est que pour monte là-dessus, il y a un jour, il passait dans la rue de Los Angeles, il voyait un homme qui a escaladé un gratte-ciel 6 étages. Là, il s'est dit, c'est génial, il faut absolument que je vous prends pour mon prochain film. Et lui, bon, il n'est pas forcément acteur, mais bon, très bien. Et donc, du coup, on lui propose des trucs, ça prend du temps. Il dit, bon, bah, moi, il faut absolument que je lance mes autres défis. Je vais aller escalader un autre immeuble, à peine 3 étages. Manque de bol, le gars tombe du premier étage, il se casse la jambe, et finalement, c'est Harold Lloyd qui va se retrouver à jouer le rôle. Et pendant très longtemps, on a cru qu'Harold Lloyd jouait vraiment au-dessus d'un gratte-ciel à 30 mètres d'altitude, de hauteur. En fait, non. Il suffit de regarder les photos de tournage et on s'est rendu compte que Harold Lloyd était bien sûr sur un immeuble, mais juste en dessous, il y avait une plateforme qui avait été construite et la caméra était placée de sorte à ce que l'illusion soit parfaite. En arrière-plan, la vue en profondeur et au premier plan, Harold Lloyd. Et c'est génial. Il y a déjà un énorme travail de mise en scène qui est assez remarquable.
Dès le début, le cinéma, c'est toujours la même chose, c'est faire du vrai avec du faux.
Et par contre, ce que Harold Lloyd va faire, il va faire un choix assez important que Chaplin et Buster Keaton ne vont pas faire très rapidement, vont beaucoup hésiter. C'est dès 1929, quand il sent que le parlant arrive, il est en plein tournage. Il fait un peu ce que Hitchcock fera au moment de Black May, quand il est en Angleterre. Il est en train de tourner Quel phénomène ? Une comédie qui était en long métrage, une comédie qui était en muet. Et lors du tournage, il apprend que le son marche, les films sonores ont un grand succès, et il décide de refaire le film depuis le début et de sonoriser le film. Et contrairement à Charlie Chaplin et Buster Keaton, les gens vont adhérer à la voix de Harold Lloyd et il va continuer pendant quelques années une carrière de comédien. Et en 1947, se considérant un petit peu vieux, il va abandonner et il va surtout travailler à la télévision. Il va animer une grande émission de jeux assez connue. Et il va rester dans sa grande villa de Beverly Hills qu'il avait fait construire dans les années 30 jusqu'au début des années 70, où il archivait tout. Il perfectionnait toutes ses copies. Il vérifiait que... un peu à la George Lucas, un petit peu. Il ne remodifiait pas ses films, mais il faisait attention à ce que ses copies ne tombent pas dans l'oubli. Et du coup, contrairement à Charlie Chaplin, il y a très peu de films de Harold Lloyd qui sont introuvables. Et ce coffret, qui coûte quand même un petit 50 €, mais qui est quand même bien fourni, je trouve, est une...
Mais c'est un DVD ou un Blu-ray ?
DVD. C'est un très bon cadeau pour Noël, surtout que moi, j'aime bien les films muets à Noël. Je me rappelle, il y a 10 ans, il y avait Arte avait diffusé l'intégrale de Charlie Chaplin pour
Noël. Tu peux entendre la neige tomber comme ça.
Oui, voilà. Mais je trouve que c'est beau parce que le cinéma muet, voilà, on parle du cinéma contemporain, on parle des ressorties, mais on parle presque jamais du cinéma muet. On est à quelques mois, quelques semaines d'un nouveau festival du cinéma muet qui va être organisé par l'Institut Lumière. Et je pense que voilà, moi, j'adore le cinéma muet. Pourquoi ? Parce que ça montre une époque révolue, l'époque d'il y a 100 ans.
Mais il est toujours là de manière détournée, en fait, si tu réfléchis bien. Il est toujours là. Quand tu vois la Dump et Dumber, il est là. Quand tu vois The Artist, il est là.
C'est une autre manière de transmettre aussi des émotions, un scénario.
Il n'y avait pas de parole, donc tout jouait avec les mimiques.
Des dialogues gestuels. Enfin, c'est...
Et surtout, voilà, bien sûr, tous les films ont été retravaillés, ont été remasterisés. Et franchement, quand tu mets les DVD dans ton lecteur et que tu passes une heure et quart à voir des films qui datent d'il y a 5 ans dans des qualités comme ça, tu dis franchement, c'est beau le cinéma, c'est vraiment universel.
D'accord, et ben la transition musicale et on se retrouve ensuite pour parler des grands films, en tout cas des projets qui vont aboutir en 2015 ou qui vont sortir sur les écrans. Let's kill youth, let's kill age. Life too short to get old. We're not gonna cry for the rich. We're not gonna laugh at the poor. Die, lie, 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 just die. Oh. Everything comes back except you and me. Love is great, tears and pain. Nature, sunshine and rain. Everything we don't need. Die. Brume 90.7.
Rock'n'roll.
C'est rock'n'roll. Ce soir, on va parler justement des films rock'n'roll ou pas de 2015.
Ah bah, il y en a un qu'on attend tous hein, depuis quelques mois, c'est Mad Max Fury Road. Enfin, bon, depuis quelques années, parce que le tournage s'est arrêté, enfin, s'est terminé en décembre 2012. Il y a eu 3 semaines de rajoutées. Apparemment, la Warner avait été très satisfaite du résultat et ils auraient donné leur feu vert et quelques millions de dollars de plus pour 3 semaines de tournage au fin fond de l'Afrique.
Mais avant, il y a eu un gros development hell hein, quand même. Parce qu'à cause de Mel Gibson qui devait venir, et puis après ces problèmes un petit peu antisémites qui ont décalé le projet, et puis après des problèmes aussi avec le désert australien, des inondations qui ont rendu le désert avec des prairies, enfin beaucoup de problèmes. Quoi.
Voilà, et finalement, c'est Tom Hardy qui a été mis un peu sur les chapeaux de roue. Bon, personnellement, j'adore Tom Hardy, mais je ne sais pas ce qu'il va donner en Mad Max, honnêtement. Mais
Charlize Theron. Sera-t-il Mad Max ? On ne le sait même pas, en fait.
Oh non, bah, il sera Mad Max.
En fait le truc du. Enfin, les rumeurs qui circulent sur le scénario de Mad Max, c'est le fait que, un peu comme les légendes japonaises, ou un peu à la Rashomon, ou un peu à la Rashomon de Kurosawa, ou même comme les James Bond, tu sais, qui changent d'acteur comme ça constamment, qui changent de peau, l'idée de Miller, ce sera en fait que Mad Max est un point de vue légendaire, un récit mythologique, et qui serait raconté par différents témoins, et donc par conséquent selon les différents témoins il pourrait prendre en fait une forme différente.
Ah bon? C'est que des rumeurs comme tu l'as dit.
À voir.
En tout cas, le film sort enfin, il y a une date, c'est le 13 mai 2015. Ouais. Avec Raphaël, on planche pour une ouverture au Festival de Cannes. C'est une évidence, je veux dire. Et puis bon, t'as Tom Hardy et Charlize Theron sur le tapis rouge, donc
Charlize Theron qui apparemment sera l'héroïne de la nouvelle trilogie hein.
Oui, parce qu'il y a une trilogie.
Ouais, c'est officiel, ils font le 5 et le 6 après. Furiosa.
Et il faut dire aussi qu'avant le tournage, il y a eu pratiquement un an de préparation au niveau des cascades. Parce que Mad Max, c'est ça, c'est des vraies cascades. Ce n'est pas. Bon, il y a quand même quelques
effets spéciaux.
Il y a des effets spéciaux quand même dans le film. Voilà.
Non, mais ils le veulent faire à l'ancienne en tout cas.
Mais c'est vraiment des films faits à l'ancienne, au school, avec des vrais cascadeurs, avec des vraies bagnoles qui explosent. Et voilà, j'espère juste que dans la bande-annonce qu'on vient de nous balancer, qui est tout simplement géniale, j'espère qu'on ne nous balance pas toutes les scènes d'action dans le film, parce que c'est vraiment très, très dommageable. Mais voilà, pour moi, c'est le film que j'attends depuis 2 ans, depuis que j'ai appris que Tom Hardy et Charlize Theron étaient dans le casting. Et puis voilà, je pense qu'on va prendre une grosse claque.
En 2015, vous verrez, il y a des très gros films qui vont sortir. Enfin, du moins, les vieux de la vieille sont au rendez-vous. Par exemple, Steven Spielberg revient aux affaires. Là, il nous livre un film d'espionnage avec Tom Hanks dans les années 60, hein, sur un fond de guerre froide, un avocat qui devient agent secret. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit par les frères Cohen. Donc, à voir comment Steven Spielberg va nous mêler tout ça.
Est-ce que l'univers des frères Cohen va être compatible avec l'univers
de Spielberg? En tout cas, sur le papier, c'est alléchant, quoi. Ça s'appelle St. James Place, apparemment. Et les Coen aussi livrent un nouveau film aussi en 2015 qui s'appelle I, Caesar, un film sur apparemment Hollywood des années 40 avec des péplums. Il y a les premières photos qui viennent de tomber. On voit George Clooney qui joue un acteur qui joue Jules César. Comment il est super crédible.
George Clooney qui joue un acteur qui joue César. Donc voilà. En fait, c'est George Clooney qui joue Jules César.
Oui, mais il joue pas César, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est la différence. Et pour le coup, il est vachement crédible, quoi. Il y a un casting d'enfer. Il y a Christophe Lambert qui a été rajouté. Il y a Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jonah Hill, Josh Brolin. Il y a un gros, gros casting, quoi.
Et dans le genre gros casting, il y a aussi le prochain Tarantino. Hein.
Ah oui, attendu.
Apparemment, le tournage a commencé.
Oui, ça a commencé, ouais.
Dans son prochain western.
Avec Jennifer
Jason Leigh. Le titre déjà,
The Hateful Eight. Jennifer Jason Leigh, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Ross.
Voilà, donc il y a un film, un western, alors ce sous-genre qu'on a inventé, le western de neige. Bon, pour moi, c'est.
Ouais, la grande silence.
On invente des sous-genres. Mais voilà, un western qui se passera sous la neige, tourné en 70 mm. Hein, donc autant dire que la salle équipée en 70 mm la plus proche de France, c'est celle de Londres, à Waterloo.
Il y a quand même quelques grands auteurs quand même, qui tournent en pellicule, donc Interstellar, Nolan, le prochain Star Wars, tourné aussi. En pellicule, ouais, en 35 mm. C'est une volonté d'Abrams. Il est vraiment comme Tarantino, c'est des fous de la pellicule. Et donc, on peut citer du coup Star Wars épisode 7 quand même.
Dans la bande-annonce, c'est sorti.
Moi, je suis pas un gros fan, mais voilà, c'est une grosse attente de 2015 quand même.
Oui, moi j'aime bien Star Wars. Je suis pas non plus un fan hardcore. Je collectionne pas les figurines. Je me déguise pas en Darth Vador et je fais pas 3 jours de queue avant l'avant-première de chaque Star Wars.
Ma trilogie, c'est pas un, moi. Alors.
Ah bon, mais moi, je t'aurais bien vu en Princesse Leia, là, les deux petites.
Couette. Mais
moi je ferais Jabba le Hutt
après il faut Mais attendons de voir ce que ça va donner, car voilà, pour l'histoire, George Lucas a vendu les droits de Star Wars à Walt Disney 4 milliards de dollars. Mais bon, il est quand même malin, il garde quand même les droits sur sa première trilogie.
Il vend les jouets, oui.
Et jackpot pour George Lucas.
Et il s'en fout complètement. Il n'a pas vu la bande-annonce. Il a dit, je ne veux pas voir ce film. Il s'en fout complètement.
Oui. Et par contre, voilà, qu'est-ce que va donner la mythologie Star Wars dans les mains de J.J. Abrams et de Walt Disney? On a vu dans la bande-annonce ce sabre laser qui n'est plus un sabre laser, mais une épée laser.
Bientôt, bon. le tournevis cruciforme sabre laser, oui, fouet laser...
Donc, assez dubitatif, on verra ce que ça va donner. Même si on sait que les anciens, les Harrison Ford et
Mark Hamill,
sont de la partie.
Carrie Fisher.
Attendons de voir.
Puis un beau casting de jeunes aussi. Hein. John Boyega, qui est un acteur assez prometteur. Oscar Isaac, des bons jeunes acteurs.
Après, moi, il y a un film que j'attends avec impatience parce que je suis fan de cette relecture. Hein. C'est Le Spectre, James Bond. Donc voilà, on annonce en 2015 une grosse baston avec Raphaël.
Non, mais j'irai pas le voir, moi.
Même si. Bon, allez, même moi, je vais voir les Michael Bay. Allez, oh, stop.
Bah, tu fais ce que tu veux. Hein. Personne ne t'oblige à
voir Michael Bay. Pas que c'est mauvais. Ne dis pas que c'est mauvais, tu l'auras pas vu.
Bah oui, non, mais oui, voilà.
En tout cas, le casting a été dévoilé, donc on savait que Christoph Waltz allait jouer le méchant. Là, je me suis dit, ouais, non, il va jouer crâne rasé, mais en fait, oui, il a joué Jack crâne rasé dans le dernier Terry Gilliam que j'ai pas vu.
C'est très mauvais.
Et voilà, donc Daniel Craig, qui est pour moi un excellent James Bond. Léa Seydoux en James Bond Girl.
Monica Bellucci, c'est la seule bonne idée du truc pour l'instant.
Ah, Monica Bellucci, ouais, très bien. Non, Christopher, c'est très bien également. Et puis bon, voilà, le film va se tourner en Autriche, forcément.
À Londres,
dans les studios
à Rome,
de Pennywood, à Rome. Ils ont d'ailleurs retapé les studios de Chinchita pour l'occasion.
Au Mexique aussi.
Ils se tournent aussi au Maroc, je crois. À Port de
je crois. Je sais plus, oui, mais
un
truc comme ça.
Donc voilà, encore un décor géopolitique international. Le film s'appelle Spectre. Et tu me disais, juste pendant la pause, que le film a été piraté. Le scénario est piraté.
C'est compliqué d'entrer dans les détails, mais effectivement, le scénario est en ligne. Enfin, pas en ligne. Il y a des résumés. Enfin, ici, il est en ligne, mais je ne l'ai pas vu comme ça. Je n'ai pas eu le temps de lire le machin. Mais les résumés.
Donc, tu as lu.
C'est la suite de Quantum of Solace, en gros, je peux te le dire.
Ah bon
ouais. Donc, ça fait très, très peur.
En tout cas, de ta part.
Film d'espionnage que j'attends beaucoup, c'est Kingsman, que personne ne parle, qui va être un vrai film d'espionnage à la James Bond à l'ancienne, avec Colin Firth qui joue James Bond en gros, avec Samuel L. Jackson et Michael Caine, donc vraiment tout un beau casting. C'est par l'auteur qui a fait Kick-Ass entre autres, et le très très bon X-Men Le Commencement, et c'est un film anglais qui réactualise complètement, ça va être génial, enfin les années 60, le côté méchant, je vais parler de Jackson qui cabotine à fond, qui veut dominer le monde, et enfin j'attends ça avec impatience en tout cas.
Et film français alors du coup, il y a un peu des
Tu me disais que Lelouch allait Clou Lelouch allait embarquer Jean Dujardin et quelle actrice?
Elsa Zilberstein
en Inde pour un
film d'amour.
Pour un film d'amour.
Pas si mauvais Lelouch.
Tu fais la tronche, mais en fait, le dernier film de Lelouch, Salaud on t'aime, j'ai failli le mettre en bonne surprise de mon top.
Mais je suis d'accord avec toi.
Je suis pas. Il y a à boire et à manger dans Lelouch. On peut pas dire que c'est un mauvais réalisateur parce qu'il a quand même innové un cinéma au début de sa carrière.
On lui chie un peu trop dessus, ouais.
Oui, bon, ouais. il a
fait des mauvais trucs, mais pas à ce point.
Il tend quand même le bâton pour Serbaz, il a fait quand même des films mauvais.
Ah, mais il a fait des très bons films.
Je trouve que son dernier film avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell était assez. N'était pas si mauvais que ça, était au contraire assez plaisant à regarder. Et là, du coup, Jean Dujardin, dont j'ai dit le plus grand bien dans la French, voilà, 40 ans passés.
En plus, moi, je faisais presque plus la tronche pour Zilberstein et Dujardin que pour Lelouch.
Hein. Ah, d'accord.
Mais c'est le trio, c'est vrai que c'est trois personnages.
En Inde.
Que j'affectionne pas spécialement.
Bollywood,
pas
Lelouch.
Tout ça, mais après, on verra, quoi.
On verra.
Mais en 2015, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs intéressants.
Bon, un peu plus.
Alors, moi, il y a l'affaire Esquin, je vous en ai parlé.
Oui,
pour ceux qui iront au cinéma tout début janvier, là, c'est vrai que c'est un film qui est vraiment, vraiment, moi, j'ai trouvé pas mal. Qui est pas génial, mais qui est quand même un bon polar français à voir sur l'affaire Guy Georges. Et puis voilà, on va voir un petit peu de quoi 2015 sera fait, de bois ou de briques.
Du côté des ricains, les auteurs sont en rendez-vous. Hein. Le nouveau Scorsese qui sort bientôt, qui s'appelle Silence. Le nouveau Michael Mann qui s'appelle donc Hacker en français sur les cyberpirates.
Notre ami James Gray, non, pas de choses au programme.
Si, il avait un projet d'ailleurs sur un film d'aventurier en Amazon, en Amazonie, je vais y arriver, sur une cité perdue avec Benedict Cumberbatch.
C'est pas où ça en est. Forcément, le prochain Woody Allen, il fait un film par an.
Il a déjà fini avec Emma Stone encore. Le prochain Apatow, Trainwreck, rumeur aussi déjà cannoise apparemment. En même temps, on dit ça chaque fois sur le film d'Apatow. Premier film d'Apatow qu'il n'a pas écrit, donc à voir, grosse curiosité de ma part. Prochain Guillermo del Toro, Crimson Peak, un petit film d'horreur de maison hantée.
Enfin.
Voilà, donc il se dirige un peu vers ce qu'il faisait avant finalement. Mmh. Donc, non, mais il y a beaucoup de trucs alléchants, quoi. Même, on a
mais bon, c'est quand encore les grands auteurs classiques un peu vieillards que j'aime, hein, américains qui ressortent. Mais après, au niveau, il y a le Paul Thomas Anderson.
Oui, oui, Inherent Vice qui a l'air d'être super. Ouais. Une sorte de privé de Altman, les vieux films de Marlowe, Philippe Marlowe, réactualisés à la sauce Big Lebowski et à la sauce Zaz. Ça a l'air d'être assez déjanté.
Bah alors, le dernier jour de 2014, il y a aussi quand même, on triche un peu, mais en même temps, ça sera pendant les fêtes. C'est le Abel Ferrara quand même, pas Zolini.
Oui,
il va falloir voir ce que ça donne.
Il y a une date, c'est bon ?
Oui, le 31. Ouais.
Avec William Defoe qui joue un Pasolini, on va dire, plus vrai que nature, d'après les photos qui ont été diffusées, notamment dans les cahiers, parce que le film a été projeté à Venise.
Oui, il a dit, bon, c'est quoi là-bas ?
Et ça me permet de... J'ai lu récemment sur Internet que l'assassinat de Pasolini était remis en cause.
Oui, les traces ADN.
L'ADN, ouais. Comme quoi ça aurait été un assassinat politique.
Ah bah oui, mais ça fait longtemps. Je pense.
Si non, mais ça a été relancé, là.
Il y a carrément un documentaire qui est très bien fait... sur justement les suspicions, mais qui est déjà un vieux documentaire sur la mort de Pasolini. Et c'est clair que, encore une fois, comme dans les grands assassinats, on y trouve des traces de la mafia, de l'extrême droite, de pas mal de grands
surtout
entrepreneurs.
Surtout dans l'Italie corrompue et fasciste des
voilà,
années 70.
Des années 70.
Mais du coup, on pourra voir si effectivement Abel Ferrara tourne toujours en deux semaines, à l'arrache. On verra.
Il a quand même fait deux films en un an. Hein.
On comparera ce film à Welcome in New York.
Ce qui va être délicat, je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'images de Pasolini. C'est un homme qu'on a quand même beaucoup photographié, qu'on a beaucoup vu. Voilà, autant en tant qu'auteur que réalisateur. Et du coup, c'est vrai que moi, j'avoue que même si j'aime beaucoup Ferrara pour le coup et que je suis un fan absolu de Pasolini, surtout quand j'ai vu la bande-annonce, c'est vrai que ça m'a un peu. J'avoue que je me suis pas senti partir, mais à voir ce que ça donnera. Le moment voulu, quoi. Pour faire juste un dernier clin d'œil avant qu'on se quitte, moi, c'est on parle de grand cinéma. Il y a quand même un documentaire que je voudrais vous signaler sur Marlon Brando, qui a été diffusé sur Arte il y a quelques jours, qu'on peut encore retrouver et qui est assez extraordinaire. C'est un acteur nommé Désir et ça retrace toute la vie de Marlon Brando et plus spécifiquement... sa vie d'acteur en fait, quoi, parce qu'il y a tellement d'histoires amoureuses, politiques avec Marlon Brando qu'on rentre dedans aussi, mais c'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle vraiment de cinéma. Donc,
mais raconte tout, même
il raconte tout,
films,
non, mais il raconte tous ces premiers grands films qui sont quasiment que des chefs-d'œuvre,
oui,
tu vois, 7-8 films qui
ça.
Sont incroyables. Après, la descente avec des films très mauvais, après, le retour un petit peu en grâce avec Le Parrain, bien sûr, et puis avec Le Dernier Tango à Paris, Apocalypse Now, et puis à nouveau le redécrochage.
Ils évoquent L'Île du Docteur Moreau, tous ces trucs.
Ouais. Et puis son rapport aussi au cinéma, comment c'est un homme à un moment donné qui a eu besoin d'être acteur, pas par amour du cinéma vraiment, ni du métier d'acteur, mais parce qu'il avait besoin de prouver quelque chose, et que c'est quand même un homme qui a révolutionné le jeu d'acteur, mais aussi la manière de s'habiller des Américains. C'est aussi le premier homme qui mêle un petit peu quelque chose d'hyper physique, d'hyper viril, et en même temps une féminité complètement acquise aussi. Et d'ailleurs, Marlon Brando s'est jamais caché d'être bisexuel. Alors, il a couché avec toutes les plus belles femmes de la planète, c'est assez hallucinant. Et beaucoup d'acteurs américains, beaucoup d'acteurs et d'hommes aussi. Enfin, c'est vraiment un personnage, après, par ses prises de position politique aussi, très engagé. Mais voilà, mais surtout, enfin, on parle pas vraiment, même si on parle bien sûr de sa vie privée, mais c'est surtout le cinéma dont on parle ici et son jeu tellement physique. Et c'est, je vous le conseille. En
c'est
tout
peut-être
cas.
Le plus grand acteur de tous les temps.
Et comment il a justement joué son physique, comment il l'a détérioré, un peu à l'instar d'un Gérard Depardieu.
Mais tous les grands acteurs deviennent obèses à la fin de leur vie. Il faudrait faire un truc là-dessus. Charles Laughton, Michel Simon, Gérard Depardieu,
Clint Eastwood,
Marlon Brando. C'est pas un immense acteur.
Al Pacino.
C'est pas un immense acteur.
Oh bah.
Non, bon. C'est pas le même.
Chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures Confluence Cinéma sur 2015. Avant ça, vous aurez l'occasion d'entendre notre top et flop cinéma de 2014 et aussi notre émission et Retour sur les séries avec Raphaël.
On a un Radio Days aussi de Calais, je crois, le jour de Noël, le 24.
Sur Noël, les films de Noël.
Les films de Noël.
Bon, bah, très bien. Et à très bientôt, en tout cas, sur les ondes de brume.